Universitaire à l'écoute des futurs avec Yasmine Edhia.
Bienvenue à tous nos auditeurs et auditrices et merci de vous joindre à nous. Je suis Yasmine Edhiri, étudiante à l'UTC et en service civique chez Radio Graphite. Ce semestre, je reprends l'émission sur la vie étudiante à l'UTC où j'échangerai avec des associations engagées autour d'un thème. Cette semaine, j'accueille Quentin de Picasoft pour une émission intitulée « Numérique responsable, réalité ou fiction ». Dans un monde de plus en plus connecté où la technologie façonne notre quotidien, il est essentiel de se poser des questions sur l'impact environnemental, social et éthique de nos choix numériques. L'émission d'aujourd'hui vous emmènera dans les coulisses du numérique responsable, explorant les défis et les opportunités qui se présentent à nous dans cette ère numérique en constante évolution. Que signifie réellement être un consommateur ou un créateur de contenu numérique responsable? Et peut-on utiliser la technologie pour bâtir un avenir durable? Nous vous invitons à nous accompagner pour tenter de trouver des réponses à ces questions cruciales. Mais avant, Quentin, est-ce que tu peux te présenter et présenter Picasoft, l'association dans laquelle tu fais partie?
Oui, carrément. Bah déjà, merci beaucoup pour l'invitation, Yasmine. Je trouve ça mortaine de donner la parole à des assos engagés de l'UTC. Et puis c'est un sacré boulot, hein. C'est des thèmes qui sont quand même compliqués à dégrossir. Donc déjà, je suis très content d'être ici. Picasoft, c'est une asso donc qui a été créée en 2016, à la fois par des étudiants, étudiantes et aussi des enseignants. Et l'idée, c'était de faire de l'éducation populaire au numérique, donc d'expliquer un petit peu les enjeux autour du numérique. Le numérique, il est littéralement omniprésent et en fait, on n'en voit que la face cachée. C'est très difficile de, à la fois, avoir conscience des enjeux géopolitiques, environnementaux, comportementaux, etc., etc. Donc, il y avait un peu ça. Et puis aussi, l'autre idée, c'était d'essayer de redonner de l'autonomie aux gens sur leur vie numérique, notamment en leur proposant des alternatives aux modèles dominants et en essayant de, en tout cas, expliquer qu'est-ce que ça changerait pour elles et eux, et puis voir si ça leur convenait, quoi. C'est un peu ça. Et donc, plus concrètement, à l'UTC, on héberge des services web alternatifs à ceux des géants du numérique qui sont gratuits, que tout le monde peut utiliser, et puis tout plein d'avantages. Mais pour ça, nous avons un podcast, nous aussi, sur radio.picasoft.net. Donc voilà, si le sujet vous intéresse, on a plein de trucs qu'on raconte là-dessus.
Et c'est que des étudiants de l'UTC qui font partie d'associations, vous êtes à peu près combien ?
Alors ça dépend des semestres. Aujourd'hui, c'est quand même une association où beaucoup de gens sont diplômés. Donc moi-même, je suis diplômé, j'enseigne un peu à l'UTC, je traîne encore un peu dans les assos, un petit peu au PIC et ce genre de choses. Mais on est, on va dire, une dizaine de membres actifs et une trentaine de personnes qui nous soutiennent. Mais en termes d'étudiants et étudiantes à l'UTC, ça se compte sur les doigts d'une main pour le coup.
Merci pour cette première présentation. Je te propose qu'on commence directement avec les questions en rapport avec le sujet. Quelle est, d'après toi, la définition du numérique responsable et pourquoi est-il important de s'y intéresser aujourd'hui ?
Alors, c'est une question qui est très, très compliquée, effectivement, parce que le numérique, c'est tellement protéiforme que c'est difficile de se demander qu'est-ce que ça veut dire responsable dans ce contexte-là. Responsable par rapport à qui ou à quoi? Est-ce que ce serait responsable par rapport à l'environnement? Est-ce que ce serait... on entend pas mal en ce moment parler de... il faut empêcher les mineurs d'aller sur des sites pornographiques, donc on pourrait se dire que c'est de la responsabilité de protéger les personnes, les enfants. Est-ce que c'est par rapport aux émissions de CO2? Est-ce que c'est par rapport, à l'exploitation, à l'extraction des minerais qui sont nécessaires pour fabriquer les appareils? Est-ce que il faut que le numérique puisse protéger les lanceurs et les lanceuses d'alerte? Donc en fait, il y a plein de choses qu'on pourrait dire, ok, ça, si on fait ça, c'est du numérique responsable. Le problème, c'est que si on veut faire tout ça en même temps, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a plein de choix techniques, de nécessités techniques qui pourront pas avoir toutes ces bonnes propriétés en même temps. Donc, à mon avis, ce qui serait intéressant de se demander, c'est comment est-ce qu'on peut décider collectivement du numérique qu'on a envie. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'esquive un petit peu ta question, parce que je suis pas sûr d'avoir la vérité absolue, tu vois, sur ce que ce serait un numérique responsable.
Et j'imagine que c'est aussi encore en définition, en construction, et chacun choisit peut-être un aspect sur lequel lui, il a envie, ou elle, a envie de se concentrer et de réduire son impact négatif. Je te propose qu'on explore plutôt les défis environnementaux liés à la croissance de l'industrie numérique. Est-ce que tu as quelques chiffres à partager avec nous ?
Alors, des chiffres, j'en ai pas énormément, mais j'ai quelques tendances globales, on va dire. Il y a plusieurs aspects qu'il faut considérer quand on parle de l'impact environnemental du numérique. L'aspect en général qui est le plus mis en avant, c'est en gros l'énergie qui est consommée. Donc les estimations, ça varie un petit peu, mais on dit que c'est 3% de la consommation électrique mondiale, et on prévoit une tendance qu'on observe généralement de 9% d'augmentation donc par an. Donc c'est beaucoup, on ne sait pas bien où ça va s'arrêter, donc ça c'est en général le premier truc qu'on dit. Ensuite, on a pas mal tendance à réfléchir en termes d'équivalent CO2. Des fois, on entend, alors un mail, c'est tant d'équivalent CO2. On entend aussi, on va faire des data centers, donc les centres où sont hébergées les machines qui fournissent les services sur Internet. On va faire des data centers neutres en CO2 d'ici 2050. Donc, ça se concentre beaucoup sur CO2 énergie. On verra dans la suite que c'est pas les trucs les plus pertinents, je trouve, en tout cas les plus importants. Pour moi, l'impact principal environnemental auquel il faut réfléchir, c'est l'aspect matériel du numérique. C'est-à-dire que, bien sûr, on a beaucoup utilisé le mot cloud, la dématérialisation pour parler du numérique. En réalité, le numérique a plus que jamais une matérialité. Et que ce soit pour construire des batteries de voitures électriques ou des ordinateurs ou des smartphones, il faut, et on en entend quand même de plus en plus parler, ce qu'on appelle des terres rares, des métaux rares, mais aussi du lithium, du cobalt. Et là, pour le coup, on est sur un impact très très concret. Pour faire bref, il faut l'extraire du sol. C'est présent en petite quantité, hein. C'est pas si rare que ça, mais en fait la densité est très faible, donc il faut retourner des hectares, des milliers d'hectares pour trouver des petites quantités de ces choses-là. Les méthodes d'extraction utilisent des produits qui sont très polluants, qui polluent les nappes phréatiques et la qualité de l'air, et on est souvent dans des zones où il n'y a pas de droit du travail, c'est du travail à main nue, travail des enfants, souvent des zones de conflit, et impossible de tracer globalement où viennent ces minerais. On peut pas faire c'est dur de faire aujourd'hui des minerais responsables, parce qu'en fait on a une dépendance, et donc à un moment, si on veut être fourni, on est obligé de fermer un petit peu les yeux. Donc ça, c'est un vrai problème. Et dernier petit problème rapidement, c'est la consommation en eau. On est quand même on sait que en 2040, si on continue comme ça, 40% de la demande mondiale en eau ne sera plus pourvue. Les data centers consomment énormément d'eau. Par exemple, en Colombie, actuellement, où il y a des restrictions d'eau qui sont imposées à la population, eh bien, Google a un énorme data center qui utilise l'eau d'une rivière pour son refroidissement, et donc réchauffe énormément l'eau de la rivière quand elle n'est pas évaporée. Donc on peut se poser quand même la question des priorités de ce point de vue-là.
Est-ce qu'on peut juste rapidement revenir sur ce qu'est un data center et le lien en fait qu'il y a avec l'eau, parce que j'imagine que c'est pas évident si on sait pas ce qui s'y fait et ce que c'est.
Ouais, carrément, c'est une très 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 bonne question. C'est vrai qu'en fait les data centers, c'est pas forcément des structures qui sont connues du grand public. Donc pour faire simple, par exemple Google, quand il vous propose Gmail ou ce genre de choses, il héberge vos données sur des serveurs qui sont tout simplement des ordinateurs, mais qui n'ont pas d'écran ou de clavier ou de souris, hein. C'est comme des grosses boîtes à pizza qu'on empile dans des grandes armoires, et en fait on fait des rangées de ces grandes armoires et des rangées, et on les met dans des bâtiments qu'on appelle des data centers, donc des centres de données. C'est souvent des data centers qui sont un peu proches des villes pour que ça aille vite, mais pas dans les villes. C'est vraiment invisibilisé. On se balade en rase campagne, on voit vite fait un hangar, mais il n'y aura jamais de logo Google dessus. Et donc, c'est des machines qui chauffent énormément, et donc il faut des systèmes de refroidissement. Des fois, c'est avec de la ventilation, de la climatisation, des fois, c'est avec de l'eau. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut... voilà. Et il y a Guillaume Carnino, prof à l'UTC, qui a écrit un article très intéressant sur les data centers, qui explique aussi à quel point ça va dans la direction où les lieux de consommation sont complètement décorrélés des lieux de production, ce qui fait qu'on a très peu d'impact et d'informations sur ce qui s'y passe. On peut voir la même chose avec l'agro-industrie.
Il met aussi en lumière un paradoxe qui est que ces data centers renferme beaucoup d'informations, beaucoup de vie. Enfin, il y a tellement d'informations sur nous, sur nos méthodes de consommation, mais à la fois, ce sont des endroits vraiment isolés, hostiles, fermés, qu'on ne connaît pas du tout. Donc j'invite les personnes qui nous écoutent à lire son article également. Une fois qu'on a pris conscience de cet impact-là, comment est-ce que les entreprises technologiques ou aussi les utilisateurs du numérique peuvent-ils réduire leur impact carbone et adopter des pratiques un peu plus durables ? Est-ce que c'est possible ?
Ouais, c'est une question qui est complexe aussi. J'ai pas énormément de billes pour être honnête. La réponse un peu provoque, mais enfin, ce serait de juste dénumériser le maximum de choses. Pour moi, c'est un petit peu illusoire de se dire ah, on va faire des petits gestes et on va participer, on va consommer un petit peu moins. Pour moi, on n'en est plus à ce niveau-là. J'y reviendrai, je pense, un petit peu plus tard. Mais bon, on peut quand même essayer d'avoir des grandes lignes parce que on n'aide pas beaucoup en disant allez décabler tout. Je pense qu'on peut déjà réinterroger ses usages, se dire de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin qu'on soit dans une entreprise. Aujourd'hui, on a vraiment cette espèce d'automatisme à dire bon bah voilà, on a besoin d'un truc, on va le faire avec un outil numérique. Vraiment, la plupart du temps, c'est pas pertinent, voire ça rajoute de la charge cognitive, et enfin voilà. Réduire le nombre d'appareils, ça pour le coup c'est vraiment un truc qui est extrêmement pertinent. Commencer à distribuer des tablettes à tout le monde, ça n'a vraiment aucun sens. Avoir plein de PC portables extrêmement puissants, ça n'a aucun sens. Mieux vaut avoir un gros PC central qui sait faire des calculs et puis par exemple s'y connecter à distance et avoir une machine peu puissante. Voilà. Des fois aussi juste trouver des solutions humaines plutôt que de vouloir tout contrôler par informatique. C'est souvent, quand on essaie de faire ça, ça marche souvent mal. Hein. Alors c'est vrai que c'est des fois dur de se faire confiance entre humains, mais voilà, ça peut être un peu ce genre de choses. Globalement, sur aussi les stratégies d'achat, essayer d'avoir des objets un peu moins miniaturisés, qui se réparent facilement, avec des pièces détachées qui peuvent être fournies pendant assez longtemps. Et je pense un des trucs à fort impact aussi, c'est d'énormément mutualiser. En fait, il y a énormément d'appareils qu'on utilise quoi 5% de la journée. Hein, on dit la même chose pour les voitures. Si on peut se retrouver avec des serveurs, des appareils mutualisables, je pense que ça a quand même un sacré impact en attendant d'aller vers des trucs peut-être plus radicaux quoi.
J'avais aussi entendu que maintenant légalement l'obsolescence programmée commence à être un peu interdite pour certaines entreprises. Et comme tu l'as très bien rappelé, il y a aussi des entreprises qui font en sorte que leurs produits ne sont pas forcément réparables, ce qui nous pousse à acheter régulièrement de nouveaux objets technologiques. Et comme tu l'as dit, l'extraction des minerais pour les produire a un impact qui est très important. Donc essayer de se renseigner, d'acheter seconde main aussi, ça peut être une bonne solution.
Absolument. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais... Vu que l'idée c'est de réduire les appareils neufs au maximum, mais acheter de seconde main pour l'obsolescence programmée, il y a encore vraiment du travail à faire. On a des projets de loi en cours, mais qui sont très honnêtement très très faibles, mieux que rien, mais quand même très très faibles du point de vue des enjeux qu'on a devant nous. Ouais.
Donc là, le mieux qu'on puisse faire, c'est réduire notre consommation au juste nécessaire, que ça soit en matériaux numériques ou en utilisation d'Internet, c'est ça?
Je pense, ouais, en termes, vraiment, s'il y a un truc à faire, c'est essayer de se dire, vraiment, réduire le nombre d'appareils. Franchement. On pourra, pareil, en rediscuter un peu, mais c'est bien sûr un effort. Enfin, ça peut être perçu comme un effort, ça demande de changer un petit peu des choses dans son mode de vie, mais ça sera d'une efficacité incomparable avec celle de, par exemple, supprimer ses mails. Honnêtement, supprimer ses mails, c'est un truc qu'on a beaucoup entendu. D'ailleurs, les chiffres avaient été largement surestimés. Ça n'a aucun impact. Ça n'a aucun impact, en tout cas structurel. Ça va rien changer au paradigme numérique. Donc, c'est vraiment l'équivalent de faire pipi sous la douche ou quelque chose comme ça. Je pense qu'on est vraiment à un stade où il faut absolument faire plus. Ouais. Mais il ne s'agit pas non plus de culpabiliser les gens, parce que, en fait, individuellement, ça serait très libéral de dire si, il faut que vous soyez dans le sacrifice. Enfin, je veux dire, moi-même, j'ai encore un Fairphone, hein, donc c'est un smartphone. Et, enfin, voilà, bref, il faut réfléchir aux choses politiquement. On pourra peut-être en discuter aussi après.
Oui, merci pour ces premiers conseils. Donc maintenant, on a vu l'impact environnemental du numérique. Je me demandais aussi quels étaient les enjeux éthiques, tu l'as évoqué en début d'émission, qui sont liés à l'informatique, mais plus précisément à l'intelligence artificielle, à l'automatisation, et comment peut-on les aborder de manière un peu plus responsable ?
Ouais, alors ça pareil, hein, sacré question, très intéressante, merci de la poser. Je vais essayer de ne pas être trop long. Si pareil, ça vous intéresse, les enjeux des IA, on a fait quelques émissions à Picasoft. On peut prendre le problème de plusieurs aspects. Déjà, les IA, on a souvent une espèce, enfin je dis on, mais certaines personnes se disent, bon, vu que c'est un programme informatique, quelque part c'est plus impartial qu'un humain. Ça va permettre d'avoir des décisions qui sont plus justes. Le problème, c'est que les IA, elles sont programmées par des humains et elles sont entraînées à partir de contenus qui ont été écrits par des humains. Donc en fait, l'IA, on entend des fois qu'elle est raciste, qu'elle est sexiste. Elle n'est pas intrinsèquement raciste ou sexiste, mais l'IA nous renvoie un miroir de la pensée dominante dans la société. Donc si on est dans une société patriarcale, hétéronormative, raciste, on aura des IA qui nécessairement, quels que soient les pansements qu'on essaie de mettre ici et là, le sera aussi. Donc pour moi, ça, c'est un premier gros problème qui est très difficile à adresser, surtout dans le cadre d'IA qui sont entraînées sur des très très grosses quantités de données qui ne sont pas contrôlées, comme ChatGPT. Hein, on est là sur des dizaines de milliards de données, on peut pas contrôler ce qui attend. Aussi, la plupart des entreprises qui développent les IA aujourd'hui, c'est des entreprises complètement opaques. On ne sait pas ce qu'elles font, on ne sait pas quels sont leurs buts. C'est souvent des entreprises à but lucratif avec toujours le même profil de jeunes start-upers de la Silicon Valley, blancs. Enfin, donc bon, on sait qu'en tout cas, ces biais-là, c'est pas leur priorité, mais quand bien même, c'est un peu compliqué de ne pas avoir plus de transparence. On a aussi le problème de l'explicabilité des IA. Aujourd'hui, c'est un sujet de recherche qui est très actif et ce serait trop technique d'expliquer là maintenant pourquoi, mais on ne sait pas expliquer pourquoi une IA a pris telle ou telle décision. On ne sait pas expliquer pourquoi une IA a reconnu une voiture à la place d'un chat ou quelque chose comme ça. Vraiment, on ne sait pas. Donc, dans un contexte où les IA sont de plus en plus utilisées, par exemple, pour essayer de faire de la justice prédictive ou pour assister même les greffiers, les greffières, ou même les politiques, c'est très très compliqué d'avoir cette absence d'explicabilité. En fait, de manière générale, je pense qu'il faut se demander pourquoi est-ce qu'on utilise des IA, à quel besoin ça répond, et voir si on n'aurait pas moyen de faire autrement. Parce que, ouais.
Je sais que parfois, on peut confondre, enfin, les personnes qui ne s'y connaissent pas trop en informatique peuvent penser que les IA, ce sont des robots, qui vont remplacer les humains, qui vont nous faire perdre le contrôle sur la société. Est-ce que c'est réaliste de penser comme ça ? Est-ce que tu peux proposer une définition qui soit un peu simple pour expliquer ce qu'est une IA, pour mieux comprendre ces enjeux-là, justement ? Pour comprendre que c'est pas un robot qui remplace l'homme et qui travaille un peu en autonomie, c'est vraiment un programme informatique qui est développé par des ingénieurs qui eux-mêmes ont des biais, donc faire une programmation qui peut entraîner des biais. Essayez un peu d'expliquer plus en détail.
Je pense que ton explication est déjà très bien et tu fais bien effectivement de poser la question. Oui, une IA, c'est pas un robot, c'est pas une machine pensante. C'est effectivement un programme qui est spécialisé dans la résolution d'une tâche et qui a été, en fait, qui a des similitudes. Quand on dit IA aujourd'hui, on parle surtout de ce qu'on appelle du machine learning, de l'apprentissage automatique. Il y a des similitudes avec la manière dont fonctionne l'apprentissage dans le cerveau humain, mais voilà, sur une très petite partie. Mais en gros, le principe d'une IA qui va être capable de reconnaître des chats, c'est qu'on va construire un programme informatique, avec voilà, une certaine structure. On va partir d'une base et on va lui montrer, par exemple, des photos de chats. Et on va lui dire, est-ce que c'est un chat ? Et ensuite, l'IA, le programme, va répondre oui ou non. Et en fait, à chaque fois que le programme se trompe, eh ben, on va ajuster un peu ses paramètres jusqu'à temps qu'il ne se trompe plus. Et en fait, toutes les IA, aujourd'hui, fonctionnent avec ce principe-là, mais à des telles, avec tellement de paramètres et des programmes tellement gros qu'on aurait presque l'impression que c'est vraiment intelligent. Mais ChatGPT fonctionne aussi comme ça, a été entraîné avec, on lui a fait ingérer plein de textes, et jusqu'à ce qu'il soit capable de produire une suite crédible à un texte qu'on lui donne. Mais il n'y a pas d'idée de compréhension vraiment des choses. On reste vraiment sur quelque chose de très mécanique, même si c'est très très impressionnant et que ça peut très bien fonctionner. Voilà. Et juste une petite note sur l'automatisation. Enfin, deux petites choses, si j'ai le temps. Ok, en fait, pour moi, il y a deux arguments qu'on entend souvent, et je pense qu'il faut être très très prudent vis-à-vis de ces arguments. Le premier, c'est de dire, bon, en fait, si l'IA, elle arrive à faire des choses que nous, humains, voilà, on arrive à faire, bah, tant mieux, parce qu'en fait, ça veut dire que c'était pas assez intéressant pour les humains, qu'on pourrait s'en décharger. Et en fait, quand les IA, elles prendront un peu en charge des tâches subalternes, et bah, nous, humains, on pourra se concentrer sur ce qui fait la spécificité humaine, peut-être la poésie, la création, enfin, plein de choses comme ça. Et en fait, c'est pas possible d'en arriver à ce qu'il fait, si tant est que ça existe, hein, parce que moi j'en suis pas sûr, mais la spécificité humaine, si on sait pas faire la base, en fait. On a aussi besoin d'incorporer, d'apprendre à faire des choses, même qui sont simples, pour pouvoir ensuite avoir une pensée plus synthétique, etc. Et du coup, une deuxième chose sur l'automatisation, ça fait depuis le 19e siècle qu'on entend que l'automatisation, ça va nous libérer du temps de travail, etc. Ça n'a jamais arrivé. L'histoire de l'automatisation, c'est juste, bah, on a remplacé le travail automatisé par autre chose. D'ailleurs, souvent beaucoup moins émancipateur, tout un tas de problèmes. L'automatisation dans les avions, ça a provoqué beaucoup plus de crash qu'il y en avait avant, enfin peut-être pas beaucoup plus en tout cas, mais on perd les habitudes, comme on sait plus piloter un avion, ben on sait plus trop reprendre le contrôle. On perd de l'autonomie, et puis en fait ça réduit aussi l'espace des possibles, parce que toutes les solutions que vont pouvoir proposer une IA, eh ben, une IA ne sera jamais vraiment créative, ça va se baser que sur ce qu'elle a vu avant, avec quoi on l'a entraîné. Donc voilà, ça réduit aussi la manière dont on va penser. Donc bref, tout ça pour dire que si on n'a pas un changement de paradigme de société, en fait l'automatisation, elle continuera à alimenter un système productiviste où non, on ne va pas libérer du temps de travail, et non, on ne va pas se concentrer sur des trucs sympas pour nous.
Merci pour ces éléments de réponse que je trouve très très intéressantes, et que j'encourage les personnes qui nous écoutent à se renseigner davantage, parce qu'il y a de plus en plus de ressources qui existent sur ces questions-là, notamment sur l'automatisation, avec parfois des conclusions un peu paradoxales ou inattendues par rapport à ce qu'on peut penser. En répondant à la question sur l'IA, t'as bien précisé que il y avait beaucoup de start-up comme ça, en rapport avec l'intelligence artificielle, qui étaient créées par des individus qui n'avaient pas forcément les meilleures intentions ou autres. Est-ce que tu as des exemples de technologies émergentes qui contribuent justement à un numérique plus responsable, dans le sens où ils ont conscience de ces problématiques et ils essayent de s'améliorer un peu ou proposer autre chose, sortir de ce paradigme-là ?
Par rapport aux IA ?
Pas que, en général. Tu veux parler des initiatives à Picassoft aussi ?
Oui, par exemple. Oui, tout à fait. Bah, en fait, effectivement, pareil, ça dépend de quel à quel problème on essaie de s'attaquer. Nous, à Picassoft, on essaie plutôt de s'attaquer au problème de la centralisation, de la revente des données, de la surveillance des services de renseignement sur les militants, les militantes, etc. Donc il y a un collectif en France qui s'appelle le collectif Chaton, pour collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Une centaine du coup d'associations, des fois juste des personnes, des individus ou des entreprises qui proposent des services alternatifs et qui essayent de, avec des modèles assez inspirants. Il y a des chatons à l'énergie solaire qui sont nomades. Il y en a qui, justement, essayent d'utiliser que du matériel de récup, donc des choses un petit peu comme ça. Après, au niveau de l'intelligence artificielle, j'ai du mal à voir pour l'instant des utilisations que je trouve vraiment chouettes. Je peux quand même mentionner un projet qui s'appelle Tournesol, qui est développé par des chercheurs de l'EPFL à Lausanne, je crois, qui en gros essaie de construire un algorithme de recommandation de vidéos qui serve vraiment l'intérêt général. Alors c'est très compliqué, hein, y a des papiers de recherche qui expliquent tout ça, mais globalement on peut l'utiliser de manière très simple, c'est tournesol.app. Ça vaut le coup d'aller voir un peu à quoi ça ressemble, parce que faut bien avoir conscience qu'aujourd'hui YouTube c'est quand même des milliards et des milliards de vidéos regardées chaque jour, et que plus de 2/3 de ces vidéos sont recommandés par l'algorithme. Donc je veux dire, l'impact géopolitique de ces algorithmes est énorme, donc c'est chouette de chercher des alternatives.
J'imagine que c'est pour lutter contre l'enfermement idéologique un peu.
Ouais, et puis notamment aussi, en fait, les algorithmes de recommandation sont quand même basés sur des incitatifs de captation de l'attention, de génération des données, donc des incitatifs économiques et pas l'intérêt général. Donc le but de YouTube, c'est pas des grands méchants, hein, c'est juste de se dire... comment est-ce qu'on peut faire pour que cette personne reste le plus longtemps sur la plateforme ? Et des fois, ça va être vertueux pour la personne, elle va apprendre plein de trucs. Mais c'est un effet secondaire, en fait, c'est pas l'effet recherché à la base, quoi.
Merci beaucoup pour ces exemples-là. Aujourd'hui, je tenais à t'avoir dans l'émission pour sensibiliser à ces questions-là, qui sont un peu méconnues. On a longtemps présenté le numérique comme étant la solution à plein de problèmes. Il y a aussi une période où le numérique était considéré écologique parce que immatériel.
Ouais.
Maintenant, on commence à se poser de plus en plus de questions. Et donc, à ton avis, comment est-ce que l'éducation et la sensibilisation du public peuvent-elles jouer un rôle dans la promotion d'un numérique plus responsable ?
Je pense que il y a, par exemple, à l'UTC, c'est clair qu'il y a des choses qui se mettent en place autour de ça. Je pense que je sais pas si on en parle dans IS0, qui est la matière qui est obligatoire pour tous les entrants aujourd'hui. Parle pas mal des enjeux écologiques. Je suis pas convaincu qu'on parle énormément de numérique, mais ça pourrait à l'avenir.
Donc IS0, c'est une matière qui maintenant est imposée à tous les nouveaux entrants de l'UTC et qui a pour objectif de sensibiliser sur les enjeux environnementaux, il me semble.
Ouais, tout à fait. Et donc il y a, je crois, 6 ou 7 cours. Donc en fait, ça pourrait avoir un impact très fort de parler là des enjeux du numérique. Hein, typiquement, sur l'extractivisme, pour moi, c'est un des enjeux principaux et les gens tombent des nues en général. Il y a des cours hein, comme WE1, c'est un cours qui parle à la fois du web, du numérique, de la société, de comment se réapproprier un petit peu le numérique, comprendre les enjeux autour de ça.
Plutôt éthique.
Plutôt éthique, ouais, tout à fait. Il y a les activités pédagogiques d'intersemestre où Picassoft propose du coup 2 semaines de formation pour aussi se réapproprier les outils et voir un peu quelles sont les alternatives. On fait des conférences, donc voilà, il y a quelque chose qui se font au niveau local, mais qui sont quand même surtout portés par des étudiants engagés ou des profs qui sont engagés. Mais voilà quoi, de manière générale, on est dans un déni absolument complet du gouvernement, mais sur tous les domaines, hein, en ce qui concerne l'environnement, malgré les rapports du GIEC, de l'ADEME, tous les rapports qui montrent que nos trajectoires technologiques sont insoutenables, il n'y a vraiment rien qui est fait, en tout cas rien d'ampleur qui est fait, structurel. On a bien des services dans des ministères qui font la promotion du logiciel libre, qui développent des trucs très chouettes avec des gens très très chouettes là-dedans. Mais voilà, globalement, je pense que pour l'instant, on peut surtout compter sur la militance des enseignants, enseignantes et des assos d'éducation populaire.
tu as surtout donné des exemples d'événements ou de sensibilisation qui pouvaient être faits au sein de l'UTC, mais est-ce qu'en dehors de l'UTC, tu penses que la prise de conscience est importante par rapport à ces sujets-là, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire ?
Oui, oui, carrément. D'autant que les informations sont, enfin, en tout cas, les informations grand public sont assez mauvaises quand même, parce qu'on continue à trouver quelques éco-gestes, du style supprimer ses mails, je sais pas trop quoi. J'ai pas vraiment de piste de réflexion pour ça. C'est pareil, il y a quand même pas mal d'assos d'éduc pop qui vont dans les lycées. Je sais que à Besançon, il y a une asso, j'ai oublié le nom, mais qui fait énormément d'interventions dans les établissements scolaires, collèges, lycées. Ça, c'est effectivement, si ça pouvait se généraliser un petit peu plus, ce serait cool. Ouais.
Et aujourd'hui, est-ce qu'on a un moyen de mesurer approximativement notre impact environnemental et social aussi, du numérique, et aussi l'impact des changements qu'on pourrait adopter?
Eh bien, écoute, je ne retrouve plus mes notes.
Parce que je pense que ça peut être encourageant de se dire, bon, c'est vrai que notre bilan n'est pas très positif, mais en adoptant telle ou telle mesure, eh bien, je réduis un peu plus et donc ça me motive en tant que consommateur ou consommatrice du numérique à continuer mes efforts.
Yes. Je crois que j'ai juste oublié de répondre à ta question. Globalement, c'est assez difficile de mesurer son impact parce que... Alors, il y a des sites qui existent. Il y a même un site, il me semble, du gouvernement qui permet de... Un truc genre My Impact ou quelque chose comme ça, qui plutôt pour les professionnels, mais qui permet d'estimer c'est l'impact de ces usages numériques. Le problème, c'est que c'est toujours centré autour du CO2. C'est très difficile de prendre en compte toute la chaîne, on va dire, de l'extraction au recyclage qui n'en est pas. Donc, je pense que, en fait, au même titre que... par exemple, quand on se dit, tiens, je vais utiliser plutôt des logiciels libres ou des services alternatifs qui sont proposés par les chatons, on peut essayer de travailler, en fait, à ce moment-là, son imaginaire. Je pense qu'il y a un truc très important dans le fait de changer ses pratiques numériques, qui est de ne pas voir les choses comme de la privation ou une punition, mais aussi comme quelque chose de plus désirable. Et au même titre que, arrêter d'aller au supermarché et plutôt aller voir le maraîcher du coin ou la MAP, ça peut être vécu comme une contrainte parce que, on ne choisit pas tout à fait les légumes qu'on a toutes les semaines, il faut aller chercher son panier, ça peut être un peu chiant, des fois il pleut, enfin voilà. Et en même temps, on a aussi ce truc de, je noue un lien de confiance avec un humain, je lui permets d'être viable, ça offre une alternative résiliente si jamais l'approvisionnement de l'agro-industrie, des problèmes géopolitiques, etc., etc. Et du coup, c'est une autre manière d'envisager la vie en société à une plus petite échelle. Et donc, le fait d'utiliser des services alternatifs, c'est pas seulement réduire son impact potentiellement en faisant des calculs très complexes, en se disant « Ah là, j'ai peut-être économisé 5 kilos de CO2 », mais c'est aussi rendre plus viable un modèle de société à petite échelle qui nécessairement sera plus facile à traiter en termes de système complexe qu'une société aussi grosse qu'aujourd'hui. Donc, ça, c'est individuellement, il y a ça. Pour les associations, arrêter, par exemple, d'utiliser Google Drive et des trucs comme ça, puisque là, on est justement dans des très très gros data centers surdimensionnés, extrêmement puissants. On peut se tourner vers des associations comme Framasoft ou d'autres qui vont proposer un genre de drive, un cloud, mais qui est justement bien dimensionné, qui est pas trop puissant, qui est adapté. Si vous êtes 5 dans une asso, ça sert à rien d'avoir un serveur hyper, hyper gros. Et donc ça permet aussi de se dire, on consomme un petit peu juste ce dont on a besoin. On peut aussi se dire on va utiliser que du matériel de récup. C'est un stade un peu au-dessus dans la radicalité. On se dit j'achète plus rien de neuf, que du reconditionné, je le fais durer un max de temps possible. Il y a toujours une étape d'après, on arrête les smartphones. Ça, je sais que c'est très compliqué parce que c'est très déstabilisant. On a l'habitude de tout faire avec un smartphone. Et honnêtement, les smartphones, je pense que c'est une véritable addiction au sens pathologique du terme, mais qui est socialement acceptée et qui est même socialement encouragée. C'est-à-dire que non seulement c'est très dur de s'en passer parce que tout est fait, va prendre un billet de train sans smartphone, c'est faut se lever tôt, tu vois. Et vraiment, ouais, je pense que c'est une addiction pour beaucoup de gens. Donc il ne s'agit pas là d'être dans la culpabilisation individuelle.
Mais est-ce que tu penses que c'est encore une question de choix? Est-ce qu'on peut vraiment, aujourd'hui, ne plus avoir de smartphone? J'ai l'impression qu'on en a besoin pour nos applications bancaires, pour toutes les applications gouvernementales, parfois pour refaire ses documents. Est-ce qu'on peut vraiment vivre autrement?
Alors oui, c'est possible. Moi, j'ai pas mal d'amis qui n'ont pas de smartphone et qui s'en sortent. Mais voilà, je ne conseillerais pas en premier lieu à tout le monde, parce que c'est vrai que c'est pas facile, en fait. Je pense que vraiment, bon là c'est un peu plus philosophique, je sais pas, enfin c'est pas le bon mot, je sais pas comment dire, mais il y a des stades en fait de comment est-ce qu'on a envie de changer ses habitudes. Je pense que si on commence par se dire ok, j'ai plus de smartphone, franchement ça va être l'enfer, il faut pas faire ça, enfin il y a beaucoup de gens à qui ça conviendra pas, mais il y a aussi un moment où quand on a changé ses habitudes, qu'on se sent un petit peu prêt, même si ça a fait un petit peu peur, en fait ça ouvre aussi des interstices, ça nous permet d'aller dans des endroits où on serait pas forcément allé. Enfin, typiquement un tout petit exemple, mais si t'as pas de GPS, tu vois, le GPS Google Maps, ça te permet d'être vraiment optimal, tu peux partir vraiment à la minute près. Si t'as pas de GPS, franchement t'es pas bien sûr, tu vas prendre ta carte, tu sais que tu vas te tromper, tu prends une heure à l'avance, bah en fait ok, il faut un peu plus de temps, mais tu vas peut-être tomber sur une petite rue que t'avais jamais vue, tu vas tomber sur quelqu'un qui va te taper la discute, qui va être trop cool. Et en fait le smartphone qui permet justement d'optimiser, de compresser et d'enlever tout ce qui n'est pas considéré comme de la charge utile, et bah ça réouvre ses interstices et ça sort un petit peu de ce truc où on est centré sur la satisfaction la plus rapide de ses besoins. Donc je pense qu'il y a vraiment cet intérêt de recréer un nouvel imaginaire désirable où le smartphone, le numérique a moins de place, mais c'est pas uniquement parce que bah, on n'a pas le choix.
Plus que sortir d'un imaginaire, c'est aussi essayer de se construire hors du paradigme dans lequel on vit. Et ma dernière question par rapport à ça, c'est: est-ce que actuellement il y a des exemples de gouvernements ou de réglementations qui s'attaquent à ces problèmes-là et qui mettent en place des règles et des mesures concrètes pour essayer, pas de sortir complètement du paradigme dans lequel on vit, mais d'essayer déjà de réfléchir et penser notre rapport au numérique autrement?
En gros, ma réponse, c'est plutôt non. Alors, c'est sûr qu'il y a une conscience, même au niveau gouvernemental, même si elle n'est pas assumée, enfin je veux dire, les gens savent, la Commission européenne sait, etc. Donc il y a des textes de loi qui sont en cours de rédaction et de proposition. Par exemple, la Commission européenne propose à présenter une directive sur le droit à la réparation, notamment sur les téléphones et les tablettes, et propose d'obliger les fabricants à réparer les appareils entre 5 et 10 ans après la fin de la garantie. Donc on peut se dire chouette, bonne nouvelle. Enfin, honnêtement, oui, c'est toujours ça de prix. En France, maintenant, on a obligation pour les fournisseurs de mettre un indice de réparabilité sur les appareils. Bon, la blague, c'est que c'est eux qui le choisissent et qu'il n'y a pas vraiment de contrôle, donc on peut se demander la pertinence. Mais du coup, bon, il y a des lois en Europe qui s'attaquent aussi au monopole des grandes entreprises américaines, des grandes plateformes, et qui essayent de diversifier un petit peu l'écosystème et de décentraliser les pouvoirs. Mais globalement, pour moi, c'est très peu, c'est trop peu. C'est exactement comme les mesures qui sont prises par rapport à l'accord de Paris, sur vraiment les émissions de gaz à effet de serre, etc. Au rythme où vont les mesures, en fait, on atteindra nos objectifs que dans 300 ans, alors que là, on est censé les atteindre très, très rapidement.
Ça va être un peu tard, je crois.
C'est un peu tard. Et en fait, à mon avis, c'est pour une raison structurelle, c'est que le numérique, il dépasse toujours la loi. Il se met toujours dans les zones grises de la loi, puisque bah, ça n'existe pas, donc ça arrive avant. Et ensuite, la loi s'adapte dès lors que un outil numérique ou quelque chose qui n'avait pas été prévu va permettre de faire de la croissance ou faire augmenter le PIB. Ça peut paraître très cynique, mais en fait, c'est aussi ce qui s'est passé, par exemple, avec Uber. Là, c'est pas du, enfin, c'est un peu du numérique, mais Uber est arrivé sur le marché. Il y avait une espèce de zone de flou, et en fait, le gouvernement, globalement, loin de vouloir interdire Uber, a coopéré avec, parce qu'ils se sont dit, mais génial, ça fait un marché en pleine croissance. Et en fait, aujourd'hui,
ça peut créer des emplois.
Bah, même les emplois, c'est compliqué, vu qu'ils n'ont même pas de CDI aujourd'hui. Mais en fait, on ne peut pas, étant donné que... Et donc, bah, bref, ce n'est pas pour rentrer dans un truc très long, mais les règles européennes imposent certaines choses sur le taux de déficit, sur la croissance, etc., et qu'il y a vraiment cette volonté de faire croître le PIB, il n'y a aucune raison, mais vraiment aucune raison d'attendre des mesures radicales de la classe politicienne. C'est toujours l'argument qui est évoqué, c'est oui mais l'Europe nous oblige à faire ceci, l'Europe nous oblige à faire cela, et quand bien même, donc là c'est une réflexion plus générale, et donc j'invite aussi les auditeurs, auditrices à prendre du recul par rapport à ce que je dis, hein. C'est bien moi, Quentin, qui parle, et pas la position de Picassoft forcément, mais... Quand on a une classe politicienne qui est spécialisée, un corps de métier spécialisé pour faire de la politique, qui a du coup des intérêts professionnels, notamment bah, celui de conserver un poste, éventuellement d'être réélu, on ne peut pas s'attendre, et c'est normal, à ce que cette classe politicienne spécialisée aille dans le sens de l'intérêt général sur 30, 50 ans. Et donc peut-être que pour réfléchir sérieusement à quel numérique souhaitable on aurait envie d'avoir, on pourrait convoquer des choses sur le modèle de la Convention citoyenne pour le climat, qui pour moi a été un grand succès, et puis si possible appliquer les mesures qui en seraient sorties.
Merci pour ces pistes de réflexion. Pour les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient continuer à se renseigner sur ce sujet, est-ce que tu as des ressources ou des recommandations à nous partager en plus du podcast Picassoft ?
Alors là, ça me prend un peu de court. Je sais qu'il y a un excellent blog d'un maître de conf en sciences de l'information qui est hébergé chez Framasoft. Avant, on retrouvait ça sur affordance.info. Maintenant, je sais que ça a changé d'URL, mais il doit avoir une redirection. C'est vraiment très intéressant, ça parle d'énormément de sujets de société en rapport avec le numérique, les IA, l'enseignement, l'environnement, tout ce que tu m'as un peu posé comme question, donc je recommande ça. Ouais.
Merci beaucoup. Et est-ce que tu as un dernier mot à nous partager avant de terminer l'émission ?
Ouais, j'espère que, en tout cas, les personnes qui écoutent ça se sentent pas abattues par tous les trucs un petit peu négatifs qu'on a dit, parce que au final, c'est vrai que quand on est tout seul ou toute seule, on peut se sentir vachement impuissant face aux systèmes qui sont là devant nous. Mais en fait, quand on s'y met à plusieurs et qu'on discute avec ses voisins, voisines, sa famille, etc., on sent qu'en fait, on a du pouvoir d'agir. Et si aujourd'hui Picassoft, c'est pas énorme, hein, mais c'est quand même des dizaines de milliers de personnes qui utilisent les services, c'est quand même plein de confs qu'on a fait, de rigolades, de bouffe, de musique, de danse et de plein de choses comme ça. Donc juste, ouais, faut essayer de faire corps et de faire collectif, et c'est comme ça aussi qu'on cède pas juste à la tristesse, à l'impuissance. Donc ouais. Allez-y.
Merci Quentin pour cette note positive. C'est bien de finir cette émission de cette façon-là. Merci à toi d'avoir été présent, d'avoir partagé tous tes conseils avec nous. Merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.
Merci beaucoup Yasmine. Ciao. Au revoir.